Bienvenue dans le podcast Scoli et compagnie. Aujourd'hui, Scoli va découvrir que l'étude des manuscrits nous emmène parfois dans le désert du Sinaï en Égypte à travers des légendes et des histoires incroyables sur les pas des Araméens christo-palestiniens. Bonne écoute!
Tu fais quoi? Tu regardes un film?
Non, je regarde des photographies.
Tu as l'air bien concentré pour quelqu'un qui regarde ses photos de vacances.
C'est parce que ce ne sont pas mes photos de vacances. Ce sont des photos un peu particulières.
Mais comment ça? Je peux regarder?
Bien sûr. Assieds-toi ici et regarde avec moi.
Mais c'est quoi ce truc?
C'est un manuscrit. Ou plutôt, c'est ce qu'il en reste.
Un manuscrit? Mais tu as vu la tête qu'il a? On dirait des lasagnes qui sont restées trop longtemps au four. Tu l'as trouvé où? Bah, on ne peut rien lire.
Ouh là là, ça fait beaucoup de remarques d'un coup. Chaque réponse est une histoire, et une histoire parfois rocambolesque. Tu veux vraiment savoir?
Si je veux savoir, tu me montres un truc tout brûlé sur lequel sont écrits des signes bizarroïdes. Un peu que je veux savoir.
Bon, eh bien, commençons par le commencement. Ce manuscrit vient de la plus ancienne bibliothèque du monde, toujours en activité. La bibliothèque du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï, en Égypte.
Un monastère en Égypte?
Eh oui, dès le 3e siècle, des chrétiens s'étaient réfugiés dans cette région désertique et montagneuse pour fuir les persécutions. La légende raconte que l'impératrice Hélène, la mère de Constantin, aurait fait construire une chapelle là-bas, en 337, près d'un arbuste que l'on pensait être le buisson ardent. Tu sais, cet épisode de la Bible, où Dieu parle à Moïse en étant dans un buisson d'épines qui brûle sans se consumer. Alors ce lieu attire les moines, et au 6e siècle, l'empereur Justinien va faire construire un monastère fortifié qui va protéger les religieux des attaques des tribus nomades. Et ce n'est qu'au 9e ou au 10e siècle que le monastère sera placé sous le patronage de Sainte Catherine.
Sainte Catherine, comme les Catherinettes?
Oui, c'est ça. En fait, la légende de Sainte Catherine est assez récente et les historiens pensent que c'est un récit créé de toutes pièces. Il n'a aucune cohérence historique. En plus, Catherine y est décrite comme une jeune femme de famille princière, très pieuse et très cultivée. Une version du texte prétend même qu'elle connaissait les 72 langues du monde. On raconte que les moines du Sinaï auraient découvert son corps intact au 9e siècle sur une montagne voisine et que c'est ainsi qu'elle serait devenue la patronne et la protectrice du monastère. Ensuite, c'est devenu un lieu de pèlerinage important. Et Sainte Catherine a été l'une des saintes les plus populaires, en Orient comme en Occident. Elle a fini par devenir la patronne des jeunes femmes, en particulier de celles qui restaient longtemps célibataires, d'où les Catherinettes. Mais tu sais, elle était aussi la patronne des philosophes et des intellectuels, et même du collège de Sorbonne, qui deviendra plus tard la Sorbonne.
Waouh, quelle aventure! Mais raconte-moi cette bibliothèque! Les moines ont contribué à les recopier pendant tout ce siècle?
Il faut savoir que le monastère du Sinaï avait acquis très vite une grande réputation. Et beaucoup de gens s'y rendaient en pèlerinage. Mais surtout, des moines y venaient de tout le monde chrétien. Et pour se comprendre, ils parlaient grec entre eux. Le grec était alors la langue commune de toute cette région. Mais en plus du grec, chaque moine gardait sa propre langue, et s'il y avait d'autres moines de la même langue que lui, ils utilisaient leur langue maternelle entre eux. Et surtout, ils avaient des livres écrits dans leur propre langue. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une bibliothèque qui contient des livres en grec, en syriaque, en géorgien, en arménien, en arabe et même en latin. Et comme ces livres sont parfois très anciens, on y trouve de véritables trésors littéraires.
Tu appelles ça un trésor? Moi, j'appelle ça un millefeuille illisible. Hein. Tout ce que je vois, ce sont des caractères bizarres et des lignes dont il manque le début, la fin. et parfois le milieu.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce manuscrit est vraiment en mauvais état, on peut le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas le lire.
Le lire ? Mais comment peut-on lire ça ? On ne sait même pas dans quelle langue ça a été écrit.
Bien sûr qu'on le sait. Ce manuscrit est écrit en araméen christo-palestinien.
En quoi ?
En araméen christo-palestinien. Un dialecte qui était parlé dans la province romaine de Palestine par la communauté chrétienne de langue araméenne. C'est assez proche des autres dialectes araméens. Mais pour se distinguer, la communauté chrétienne a choisi d'écrire sa propre langue dans un alphabet différent. Elle a donc repris l'alphabet syriaque qu'elle a modifié légèrement.
Ah, mais alors, on possède beaucoup de ces manuscrits en araméen christo-palestinien ?
Malheureusement, non. On a quelques dizaines d'inscriptions assez brèves et quelques dizaines de manuscrits seulement, c'est très très peu.
Et ces textes parlent de quoi ?
Ce sont des textes chrétiens. Donc, soit ce sont des textes tirés de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, soit ce sont des homélies des pères de l'Église, ou bien des vies de saints, mais toujours des textes de nature religieuse.
Oui, évidemment, dans un monastère, ça se comprend assez bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton manuscrit pour qu'il ait si mauvaise allure ?
Ah, ça, c'est une histoire passionnante. En 1975, un incendie s'est déclaré dans le monastère. Et il a fallu envisager des travaux de rénovation de la chapelle. En commençant ces travaux, on a redécouvert une pièce qui avait été murée et qui contenait des centaines de très anciens manuscrits.
Quoi ? Une bibliothèque murée ?
Oui. Tu m'as bien entendu. Une bibliothèque murée. C'est ce qui explique que mon pauvre manuscrit se soit trouvé si abîmé, d'abord par le feu et ensuite par l'eau.
Mais depuis combien de temps ? Et pourquoi ?
Ah, ça n'est pas bien clair. Mais certains disent que c'était pour éviter les visites des chercheurs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dont certains avaient pris la mauvaise habitude d'emmener avec eux les manuscrits, soi-disant pour les montrer à des gens importants, mais qui ne les ont jamais rendus.
Tu veux dire qu'il y a des gens qui volaient les manuscrits ?
Hélas, oui. Tout le monde n'est pas honnête. Et devant la valeur inestimable de ces vieux livres, certains ont cédé à la tentation. D'ailleurs, on retrouve aujourd'hui ces manuscrits dans des collections publiques, mais aussi dans des collections privées. Il y en a même qui ont été démembrés, c'est-à-dire déchirés, et éparpillés entre plusieurs collections différentes. C'est très difficile de les retrouver tous.
Aïe, 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 aïe. Déjà qu'il ne restait pas plus grand-chose de ton dialecte araméen.
Non, mais la redécouverte de cette bibliothèque a été un événement majeur, tu penses bien. En fait, les moines qui ont muré la bibliothèque l'ont sauvée et ont sauvé ce dialecte. Aujourd'hui, on a répertorié plusieurs livres en araméen, dont celui que tu vois sur mon écran. Et celui-ci est un cas très intéressant, car il est palimpseste.
Un palimpseste ? Attends, j'ai déjà entendu parler de ça par une de tes collègues. Laisse-moi me rappeler. Ce sont des manuscrits effacés et réécrits, c'est ça ?
Oui, je vois que tu écoutes bien ce que l'on t'explique. À l'époque où le parchemin coûtait assez cher, c'était un bon moyen de faire des économies. Aujourd'hui, on parlerait de recyclage. La bibliothèque du monastère Sainte-Catherine contient beaucoup de ce type d'ouvrages. Parfois, on peut encore lire à l'œil nu l'encre de la couche inférieure car elle n'a pas été bien effacée. Parfois, il faut recourir à des techniques plus sophistiquées, en particulier avec un éclairage ultraviolet qui fait réapparaître les encres effacées. Il y a d'ailleurs tout un programme scientifique qui a été lancé pour photographier ainsi tous les manuscrits palimpsestes du monastère.
C'est fabuleux ! Alors maintenant, on peut tout lire ? Même ton horrible manuscrit ?
Oh, le mien n'a pas encore été photographié à l'ultraviolet. Mais heureusement, j'ai de bonnes photographies et on arrive à lire une bonne partie de la couche inférieure à l'œil nu. Même si parfois, honnêtement, c'est difficile.
Ah oui, ça je te crois. Moi, je vois à peine qu'il y a une couche inférieure. Et donc, son texte en araméen christo-palestinien, il a été écrit sur un texte en quelle langue ?
Eh bien, en araméen christo-palestinien.
Quoi ? Alors tu as deux fois la même langue ?
Oui, c'est vraiment incroyable et c'est très rare. Ça, c'est une chance, car ça me donne deux textes araméens au lieu d'un seul. Et comme on en a déjà peu, ça augmente notre corpus de textes.
Pas mal. Et ton livre, il fait combien de pages ?
Ah, ça, on ne sait pas.
Comment ça, on ne sait pas ? Tu ne les as pas comptés ?
Non, je ne peux pas les compter, car je ne peux pas lire tout le livre. Lors de l'incendie, il a été un peu brûlé sur les bords, et ensuite, à cause de l'eau qui a servi à éteindre le feu, certains feuillets se sont trouvés collés entre eux, et on ne peut plus séparer les pages sans les détériorer davantage. En plus, le codex est en 4 morceaux, car la reliure a été détruite. J'ai donc un cahier isolé, j'ai des fragments de feuillets, et ensuite ce gros paquet que tu vois, et qui forme l'essentiel du codex d'origine.
Ah mais c'est vraiment dommage, hein ? Donc on a un gros livre en araméen, avec plusieurs couches d'araméen, et on ne peut pas le lire. Mais alors, à quoi bon ?
Justement, si je parviens à montrer tout l'intérêt de ces textes pour la connaissance de la tradition textuelle et de la langue araméenne, je pourrais justifier de la nécessité de restaurer ce livre. Mon rêve, ce serait qu'un jour, on puisse décoller les pages et lire les 2 couches de texte. Alors ce serait vraiment merveilleux.
Je vois. En somme, il faut prouver, d'après ces pages tout abîmées, que le texte est passionnant et qu'il vaut la peine d'être connu. Tiens, essaie de me convaincre pour voir.
D'accord. Eh bien, pour commencer, j'ai eu accès à 40 pages, mais pas toujours complètes. J'ai tout transcrit, mais je n'ai pas réussi à identifier tous les textes. Malgré tout, je crois pouvoir dire que la couche supérieure contenait une collection alphabétique d'apophtegmes des pères.
Pardon ? Des quoi ?
Des apophtegmes. À l'origine, ce sont de tout petits récits qui sont souvent des questions posées à un moine que l'on considère et qu'on respecte pour sa sagesse. Et sa réponse est supposée aider les jeunes moines à progresser dans la vie religieuse. Parfois, ce sont des situations qui sont rapportées et qui doivent servir encore d'exemple. Mais dès le 4e siècle, on a commencé à compiler tous ces petits textes pour pouvoir les répandre auprès de différents monastères. Mais aujourd'hui, on en possède tellement qu'il a fallu les classer. Donc on a une collection alphabétique qui classe les apophtegmes par nom de moine, soit celui qui pose la question, soit celui qui y répond, et une collection systématique qui range les apophtegmes par thème. C'est un genre littéraire qui était très prisé, car il servait pour l'éducation des jeunes moines. Et maintenant, on compte plusieurs centaines, peut-être même milliers d'apophtegmes au total. Et encore, on a dû en perdre beaucoup.
Et tu en as combien de centaines dans ton livre ?
Je n'en suis pas à plusieurs centaines. Mais rien que dans les pages que j'ai pu lire, j'ai reconnu déjà un total de 44 textes, souvent incomplets, mais j'en ai encore 5 qui demeurent non identifiés. Ils sont trop abîmés. Les textes identifiés correspondent aux apophtegmes de 20 moines différents.
Mais si tu les as reconnus, c'est qu'ils sont déjà connus. Quel intérêt alors ?
L'intérêt n'est pas que dans la nouveauté. D'abord, il faut que tu saches que en araméen christo-palestinien, on n'a que des traductions de textes grecs. Ensuite, la méthode de traduction a ceci de particulier que le traducteur a souvent traduit le grec mot à mot.
Oh, mais ce n'est pas comme ça qu'on traduit un texte.
Pour nous aujourd'hui, c'est en effet surprenant comme manière de faire. Mais cela ne signifie pas que ce soit inintéressant. En fait, c'est même intéressant pour 2 raisons. Soit le texte est déjà connu, et l'on a accès, via cette traduction ancienne, à la forme qu'avait le texte à l'époque, et c'est souvent la plus ancienne version connue. Soit on ne connaît pas encore le texte, et l'on a un nouveau texte dont l'original grec a été perdu.
Comment ça, la plus ancienne version connue ?
Eh bien, tu vois, la plupart de nos manuscrits grecs datent du 9e ou du 10e siècle. Il est rare qu'on possède des manuscrits plus anciens. Mais ces textes en araméen christo-palestinien ont parfois été traduits dès le 5e siècle. Et c'est la version que l'on trouve ici. Donc, ça me donne accès, à travers le filtre d'une autre langue, à la forme du texte grec au 5e siècle. ce qui est bien plus ancien que les plus anciens manuscrits que l'on possède.
Alors, en fait, c'est comme si le texte grec du 5e siècle était codé et que tu le déchiffres ?
Oui, c'est ça. J'essaie de remonter à l'état le plus ancien du texte, ce qui nous aide à comprendre pourquoi et comment il a évolué à l'état qu'on lui connaît plus tard. En fait, dans le cas de ces apophthegmes, on sait aussi qu'ils ont d'abord eu une tradition orale, qu'ils ont été compilés parfois en groupe, puis séparés et réarrangés, que les noms des moines ont été confondus ou perdus. Ça peut vite être le bazar. C'est tout le problème des compilations et des anthologies. D'abord, on veut avoir un maximum de textes, après on fait du tri et on élimine, puis on recommence à accumuler, etc., etc., etc. La tradition textuelle des compilations, ça demande de la patience.
Je crois que je commence à comprendre. Alors, montre-moi sur cette horrible page ce que tu parviens à lire et à comprendre.
Cette page est la dernière du manuscrit qui porte le numéro M59N. Il forme la plus grosse partie encore reliée du codex.
Ouh là 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 là, je t'arrête, hein. Pardon, mais je ne suis pas aveugle. Cette page n'est pas la dernière, c'est la première. Regarde, la reliure est à gauche.
Très bien observé, cher Scoli. Mais je me rends compte que j'ai oublié de te dire que l'araméen christo-palestinien, comme la plupart des langues sémitiques, s'écrit de droite à gauche et que les livres commencent du côté que nous, nous appelons la fin. Il faut donc prendre le livre de l'autre sens.
Si tu ajoutes à des difficultés à chaque étape...
Ce n'est pas une vraie difficulté, c'est une habitude à prendre. Bref, je reprends. La page est particulièrement détériorée, très brune, avec des trous, brûlée sur tous les bords. On voit au milieu une ligne qui se termine par plusieurs signes de ponctuation. Cela signifie donc que l'on est à la fin d'un apophthegme et que la suite est un apophthegme différent. J'ai fini par pouvoir lire le nom de Sarmatas, plusieurs fois, mais toujours de manière fragmentaire. Or, on connaît en grec quatre apophthegmes sous le nom de Sarmatas. En comparant les débuts de chaque texte avec mon texte araméen, j'ai donc vite vu que le second texte était l'apophthegme numéro 3 de Sarmatas. Mais le premier texte de mon manuscrit, où apparaît aussi le nom de Sarmatas, ne correspondait à aucun des autres apophthegmes. Il s'agit en fait d'un apophthegme qui appartient, en grec, à la collection anonyme, mais qui est transmis sous le nom de Sarmatas dans la tradition syriaque. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que le témoin araméen présente les mêmes variantes textuelles que la version syriaque.
Attends, j'ai plein de questions. Tu ne m'as pas parlé de collection anonyme. Je croyais qu'il n'y avait que alphabétique ou systématique.
C'est vrai, mais je t'ai dit que parfois, on avait perdu le nom du moine, ou bien qu'on ne l'avait jamais su. Donc tous ces apophthegmes ont été rassemblés dans une collection que l'on appelle anonyme. Et on les met à la fin de la collection alphabétique. Et un grand philologue orientaliste du nom de François Nau, au début du XXe siècle, en a fait la liste et les a numérotés. Et celui-ci a reçu le numéro 202, selon l'ordre du manuscrit dans lequel il a été trouvé.
D'accord, donc on trouve des apophthegmes avec nom, des apophthegmes sans nom et des apophthegmes tantôt avec nom, tantôt sans nom.
Oui, selon les manuscrits ou selon les langues.
Ah, parce qu'en plus, les apophthegmes circulent dans plusieurs langues et dans différentes versions ?
Oui, c'est cela. On pense aujourd'hui que les collections d'apophthegmes se sont constituées en plusieurs étapes autour d'un noyau grec primitif. Comme ces textes servaient à l'éducation des jeunes moines, ils ont été très tôt traduits dans les langues de ces moines, c'est-à-dire dans les langues de l'Orient chrétien, dont le syriaque, ou l'araméen christo-palestinien, ou l'arménien, l'éthiopien, le copte, etc.
Waouh ! Donc c'est toi qui as fait cette découverte ? Que cet apophthegme était l'anonyme M202 ?
Oui et non. En fait, un autre chercheur, l'allemand Hugo Dunsing, a fait la même découverte, mais dans d'autres fragments de manuscrits, en 1944. Il a publié plusieurs fragments palimpsestes qu'il avait réussi à raccorder à d'autres fragments qu'il avait déjà publiés en 1906 et qui contenaient les restes d'apophtegmes attribués à un certain Sylvain. Les fragments de 1944 donnaient trois apophtegmes de Sarmatas, le 202, le Sarmatas 3 et le Sarmatas 4. Puis, à la suite directe, ceux de Sylvain. Le problème, c'est que Dunsing décrit sa reconstitution des fragments de manière si confuse qu'on a beaucoup de peine à s'y retrouver.
Mais toi, tu y es arrivé.
Ah oui, parfois, un bon schéma vaut toutes les explications. Et surtout, quand on a accès aux images des fragments, on peut faire les vérifications. Ici, tu vois, par exemple, on a la photo d'un des fragments dans un catalogue de vente. Là, j'ai fini par le trouver en ligne. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai eu de la chance. À partir de là, on comprend mieux la position respective des autres fragments et on peut reprendre tout à zéro en s'appuyant sur le texte grec pour vérifier les emplacements exacts. Une fois tous ces fragments replacés comme il faut, nous avons la succession des apophtegmes suivants. Sarmatas 202, Sarmatas 3, Sarmatas 4, Sylvain 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Sylvain 217.
Encore un apophtegme qui était devenu anonyme.
Non, pas vraiment. Cet apophtegme appartient à la série des anonymes, mais il mentionne Sylvain.
Quoi ? Mais comment on est anonyme avec un nom ?
Oui, ce sont les accidents de la transmission textuelle. Si tout était simple, je ne servirais pas à grand-chose.
Mais quand même, je commence à comprendre comment on reconstitue ces feuillets éparpillés et fragmentaires. En somme, on a des morceaux de puzzle et on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent. Mais parfois, on parvient à en remplacer quelques-uns, les uns, par rapport aux autres.
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc ici, tu as retrouvé deux séries d'apophtegmes, de Sarmatas et de Sylvain. Sauf que ta série est moins longue, vu que tu t'arrêtes à Sylvain. En somme, c'est Dunsing qui a fait ton travail. Toi, tu as seulement trouvé un autre exemplaire du livre.
Ah non, ce n'est pas tout. Un autre fragment, publié par Dunsing en 1906, figurait en fin de section des fragments des homélies d'Ephrem. Son style avait donné à penser à Dunsing qu'il pouvait s'agir là d'une homélie non identifiée d'Ephrem. Il n'en était rien. Et la réponse m'est venue d'un feuillet isolé de mon groupe de parchemin, le feuillet numéroté SP5. Ce feuillet, très endommagé, donne les restes d'un texte au recto et en haut du verso, toute la moitié inférieure étant vide de texte. La lecture du fragment d'homélie publié par Dunsing m'a permis de constater que plusieurs passages correspondaient très exactement au texte de SP5. Le texte de Dunsing, bien que très fragmentaire lui aussi, donnait 4 pages de texte et fut donc beaucoup plus facile à identifier. Il s'agit en réalité non pas d'une homélie, mais du 4e apophtegme de Théophile d'Alexandrie.
Mais si le texte était connu, pourquoi ne l'avoir pas identifié plus tôt ?
Parce que, encore une fois, il faut faire des schémas. En fait, Dunsing avait publié les pages dans le désordre et l'on ne comprenait pas le texte. Le bon ordre des pages est 4, 3, 1, 2.
Donc, maintenant, grâce à toi, on connaît la version araméenne de cet apophtegme.
En quelque sorte, oui. Mais surtout, en comparant les deux versions, on constate que les deux témoins araméens partagent les mêmes variantes par rapport au texte grec. Et là où ça devient amusant, c'est que, à un endroit, c'est le grec qui a une faute dans sa tradition principale et c'est l'araméen qui permet de la corriger.
Quoi ? L'araméen christo-palestinien est meilleur que le grec ? Mais comment c'est possible si l'araméen traduit le grec ?
Eh bien, l'araméen a traduit le grec il y a longtemps. On en a deux versions identiques. Mais le grec a continué d'être copié. Et une faute s'est trouvée insérée dans le texte et elle a été recopiée. En fait, en araméen, la phrase dit quelque part « Quel soin, quelle prudence, quelle attention !» Donc trois mots qui sont du même registre lexical. Alors que le grec dit « Quel soin, quelle prière, quelle attention !» On voit bien que le mot « prière » est un peu étrange ici. Mais la solution est simple. En grec, prière se dit « prosequet et prudence se dit prosoquet. Comme le premier mot est plus courant que le second, le scribe s'est trompé et la faute est restée.
C'est fabuleux ça! Le travail de Dunsing t'aide à identifier les textes de ton codex. Toi, tu raccordes les fragments de Dunsing grâce à ton codex et tu peux ensuite corriger des erreurs du texte grec. Finalement, à 80 ans de distance, vous travaillez main dans la main.
Oui, c'est vraiment la science en progrès. Chaque étape permet d'avancer dans la compréhension des textes. Si je résume la situation, le codex du Sinaï, qui présente en deux endroits les mêmes variantes au même texte, semble bien être un double du codex dont plusieurs fragments furent publiés par Dunsing en 1906, puis en 1944. Et il y a fort à parier que le codex du Sinaï est contenu originellement les mêmes apophtegmes de Sylvain, mais qui sont aujourd'hui perdus. Ces deux codex ont peut-être encore contenu, entre Sylvain et Théophile, d'autres apophtegmes, mais nous n'en avons plus aucune trace aujourd'hui. Retenons seulement que, hormis le cas des textes bibliques, ce serait la première fois que l'on possède en araméen christo-palestinien deux copies du même texte, peut-être même le modèle et sa copie.
Mais c'est formidable ! J'espère que tout ça permettra de convaincre les responsables de la bibliothèque du Sinaï que ton codex vaut vraiment la peine d'être restauré. Parce que moi, je suis convaincue maintenant. Et j'aimerais en savoir plus sur le reste du livre.
Ah, je te comprends, cher Scully. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce livre recevoir le soin qu'il mérite. Mais pour ça, il faut que je travaille encore, et je n'ai pas fini. Donc, si tu le veux bien, je vais retourner à mon manuscrit.